Mes amis, je veux croire que plusieurs auront compris pourquoi je reviens si souvent sur ce que j'ai dit à la réunion précédente. Il y a des personnes qui travaillent à la cuisine et qui aimeraient bien pouvoir suivre les réunions que nous avons, et elles n'en ont pas la possibilité parce que elles sont au service du Seigneur. Alors, nous avons toujours eu à cœur qu'elles puissent entendre au moins une partie, l'essentiel de ce que nous avons dit à la réunion précédente. C'est une des raisons pour lesquelles nous employons cette méthode. Mais en même temps, nous la croyons utile parce que redire deux fois peut-être à peu près les mêmes choses, c'est les faire pénétrer plus profondément. Ce soir, 26 juillet, eh bien, c'est encore de ce sujet, connais-toi toi-même, que nous serons occupés à la lumière de ce merveilleux livre de Job. Et parce qu'il nous semble que ces textes résument vraiment la pensée que Dieu veut que nous ayons, nous allons relire ces versets du chapitre 11 des Romains. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Amen. Vous vous souvenez des versets que je vous ai lus ce matin, au début de la journée? Nous avons repris le texte de Jérémie, qui me paraît un texte fondamental, qu'il faut absolument accepter. Chapitre 17, versets 9 à 10, qui nous décrit le cœur de l'homme comme étant trompeur et incurable, désespérément malin, et le Seigneur nous dit qu'il est le seul à le connaître. Lui connaît nos cœurs. Et nous avons vu que dans l'Évangile, Dieu était en Christ, et le Christ avait exactement la même pensée que dans les textes de Jérémie. Il ne se fiait pas aux manifestations des hommes, aux manifestations extérieures, même à une profession de foi, à une confession. Il ne s'y fiait pas parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Et il est dit qu'il connaissait tous les hommes. Et il savait ce qui était dans leur cœur. Et il nous a décrit ce qui se trouvait dans le cœur et qui empêchait l'homme de s'épanouir. Puis nous nous sommes arrêtés sur ce verset du chapitre 12 où Jésus, à la fin de son ministère, alors qu'il va quitter le monde et ne plus s'occuper dans une journée que de ses disciples, Jésus dit, comme en faisant ses adieux au monde, « Je ne suis pas venu, moi, pour juger le monde, mais pour le sauver. Maintenant, si vous ne croyez pas, eh bien, ce n'est pas moi qui vous juge, mais la parole vous jugera au dernier jour. » Alors, si nous ne vivons pas ce que nous entendons de la parole, nous avons nous-mêmes notre juge, et c'est cette parole. Eh bien, je veux croire que nous avons été arrêtés par ces textes et qu'ils ont opéré aussi ce redressement que nous avions à cœur de voir dans ce camp. Ce soir, c'est le chapitre 31 de Job qui va nous occuper. C'est la fin de son discours. Et je pense qu'après avoir lu les chapitres 29 et 30, comme nous l'avons fait ce matin, et quand nous aurons lu ce soir le chapitre 31, je suis persuadé que vous serez d'accord qu'il ne subsiste aucun doute, Job se considère comme parfait. Et selon lui, Dieu est injuste. Il a quand même au fond de son cœur cette pensée. Lui vient de nous dire ce qu'il était dans la prospérité. Il nous a montré dans quelle situation il se trouvait dans son épreuve. Et on voit que Job est dans une immense souffrance qu'il ne comprend pas et qu'au fond, il a le sentiment que Dieu le traite avec une certaine injustice. Quand nous aurons lu le chapitre 31, nous en serons encore plus convaincus que Job pensait avoir atteint la perfection. Et vous savez, quand nous lisons ce chapitre 31, nous pouvons rentrer en nous-mêmes et nous dire, ben, si un homme au pays des hommes sans Bible avait déjà ses pensées et cette moralité, mais nous qui avons la connaissance de la loi de Moïse, alors que Job ne l'avait pas, puisque l'on pense réellement qu'il vivait avant Moïse, au temps des patriarches, eh bien, si sans la connaissance des 10 commandements, Job avait une conscience si éclairée de ce que Dieu voulait, de ce qui était le bien et de ce qui était le mal, si ce Job, qui n'avait pas le sermon sur la montagne comme nous, nous l'avons, où Jésus a repris les 10 commandements, la lettre des 10 commandements, et a développé ses commandements. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Et il va beaucoup plus loin que la loi. Alors, nous nous disons, eh bien, il y avait donc au temps des patriarches et dans la descendance de Sem, de ces gens qui craignaient Dieu, ils avaient gardé une notion de la grandeur, de la sainteté de Dieu, de la dépendance de sa créature, et une notion qui leur montrait à quoi ils étaient appelés sur la terre et comment ils devaient vivre dans leur relation avec le prochain. Au chapitre 28, l'auteur a mis en contraste, comme vous l'avez vu, l'habileté de l'homme, dans les versets 1 à 11, et la sagesse de Dieu, des versets 12 à 28. Et une fois encore, je vous invite à relire ce chapitre qui est un des sommets du livre de Job. Du point de vue historique, il est vraiment intéressant d'apprendre qu'il y avait déjà, à cette époque, des exploitations minières, d'où l'on tirait de l'or, de l'argent, du fer, et que l'on savait creuser des puits profonds, des galeries souterraines, qu'on savait arrêter l'eau qui pouvait subitement inonder ces galeries. Il y a eu tout un travail souterrain, et quand on lit ces choses, on est d'accord avec l'Ecclésiaste qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Mais tout cela n'est rien en face de la sagesse divine. Tout ce que l'homme, qui est la race de Dieu, arrive à accomplir, cela n'est rien. Cela, au fond, ne compte pas en présence de la sagesse divine. Aucun mortel, avons-nous lu, ne la connaît. Et Dieu seul comprend son chemin, soit dans la création, soit dans la révélation. La sagesse de Dieu ne peut pas être découverte par l'intelligence humaine, elle doit être révélée. Et du temps de Job, on définissait la sagesse, comme nous l'avons vu hier soir, par ces paroles. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Et cela, je veux croire que ce texte est gravé définitivement dans vos cœurs. Voyez-vous, la révélation des pensées et des conseils de Dieu a été progressive dans le monde. À la création, l'homme a connu Dieu. Il a parlé avec Dieu. L'homme vivait dans une intimité totale avec son Créateur. Dieu le visitait. Et chaque visite apportait une nouvelle grâce au premier homme. Il allait au-devant de ses besoins. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide et qui lui corresponde. Donc, il n'y avait pas de barrière entre l'homme et Dieu. Le ciel et la terre, en quelque sorte, étaient unis. Mais l'homme a péché et il a été chassé de son lieu. Et alors, ça a été le commencement de la grande absence, puis du silence de Dieu. Puis à un moment donné, Dieu a de nouveau parlé à l'homme. Et quand Dieu a parlé à l'homme et que les hommes ont entendu sa voix, eh bien, ils ont eu peur. Comme après le péché, on a eu peur en Éden de le rencontrer, eh bien, on avait peur même d'entendre sa voix quand il a parlé au Sinaï. Et ça a été le temps du silence de Dieu. Et puis après est venu aussi le temps de la mort de Dieu. Parce que quand Dieu a voulu s'approcher de l'homme pécheur, eh bien on a voulu le faire mourir, s'en débarrasser. C'est quelque chose que vous pouvez méditer. Mais j'insiste sur ce fait que la révélation des pensées et des conseils de Dieu a été progressive. Vous voyez, Abraham, lui, qui était un païen, de l'autre côté du fleuve, il a été visité par Dieu et il a saisi la vie de la foi. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Il a obéi. La foi d'Abraham n'est autre chose qu'une obéissance. Puis Moïse, eh bien, lui, il a parlé avec Dieu. Et il parlait avec Dieu comme un homme, et il dit, parle avec son ami. Et c'est Moïse qui a donné la loi. Et ensuite, si vous voyez David, le doux psalmiste d'Israël, après ses diverses expériences, il a eu la révélation de la bonté de Dieu. Lisez le psaume 63, et vous verrez la bonté de Dieu manifestée. Et David en parle. Puis, non seulement la bonté de Dieu, il a eu la révélation de sa grâce après son terrible péché. Lisez le psaume 51, le miséré. Et par l'esprit prophétique, David a pu parler déjà des souffrances du Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Et si vous allez plus loin, dans les prophètes, vous voyez Ésaïe qui... lui aussi nous révèle le Christ qui devait venir et toutes les souffrances qu'il endurerait dans sa première venue. Mais Ésaïe nous parle aussi de sa seconde venue, de sa venue en gloire. Révélation progressive de Dieu, de ses pensées chez les humains. Mais la révélation est devenue complète à quel moment?
Résurrection.
quand Jésus-Christ est venu. Quand Jésus-Christ est venu. C'est lui qui était la sagesse de Dieu. Il y a des définitions déjà dans Job au sujet de la sagesse. Mais quand Jésus est venu, on a vu la sagesse qui était déjà annoncée dans les proverbes. La sagesse est personnifiée. Qui est vraiment la sagesse? C'est Jésus. Donc, on arrive toujours à cela. La sagesse, c'est quelqu'un. C'est pas quelque chose, la sagesse. Être sage, avoir de la sagesse, c'est laisser le Christ se manifester en nous, agir en nous, parler en nous. C'est cela, la sagesse. Il est notre sagesse. Il est notre justice. La justice, c'est une personne, c'est le Christ en nous. La sagesse, c'est le Christ. C'est ce que vous avez dans la première épître aux Corinthiens. Alors vous aurez appris quelque chose. Dans le chapitre 29e, Job nous a fait connaître les jours heureux qu'il a passés sur cette terre. On pourrait appeler ce chapitre « Autrefois ». Job nous raconte quelle était sa situation, quel était ce temps de bonheur qu'il a connu. Les bontés de Dieu, l'hommage qu'il recevait de la société, ses vertus civiques, il s'y est tant, et aussi l'espérance qu'il avait d'une longue vie et d'une mort douce, et le prestige que lui donnait son intégrité. Il était intègre. Alors, il le savait et il s'étend sur ces choses-là. Puis on a vu le chapitre 30, qui pourrait s'intituler maintenant, chapitre 29, autrefois, chapitre 30, maintenant. C'est très bon de donner un titre à chaque chapitre. On le fait par exemple pour l'évangile de Jean, et alors après on apprend simplement le titre des chapitres, et puis on sait tout de suite ce qu'il y a dans tel chapitre. Ça résume au fond tout l'évangile de Jean, si on met un simple titre. Et on peut faire cela aussi pour le livre de Job, on peut faire cela pour tous les livres de la Bible, et on les apprend aussi par cœur. Et alors, vous savez que dans tel chapitre, l'essentiel, c'est cela. C'est une méthode qui est, au fond, très heureuse. Hein. Comme nous l'avons dit souvent, nous ne l'avons pas dit dans ce camp. Si vous voulez connaître les épîtres de Paul, savoir leur rang, eh bien, il y en a combien, vous le savez, l'épître? 13 ou 14, si l'épître aux Hébreux était de lui, mais enfin, peu importe, on dit simplement l'épître aux Romains, hein, s'il y en a deux aux Corinthiens, alors on dit rococo galéfi co galéfico tétété tititi. Hein? Alors, vous avez là, rococo galéfico tétété tititi fi. Et vous arrivez à Philémon. C'est très facile. Rococo galéfico tétété tititi fi. Il y a Timothée, de Timothée, Tite et Philémon. Et vous arrivez là, stop, c'est les Hébreux, on ne peut pas les dire parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Paul. Hein? Vous le savez maintenant? Rococo galéfico tétété tititi fi. Voilà. Vous voyez que on peut faire des progrès très rapides. C'est un peu comme le violon avec Bon, c'est juste pour vous signaler comment on peut progresser et mémoriser l'essentiel de l'écriture dans nos cœurs. Chapitre 31, c'est celui qui va nous occuper quelques instants maintenant. J'espère qu'il vous a quand même impressionné. Dans ce chapitre 31, Job établit son innocence. de la manière la plus solennelle. C'est un véritable serment d'innocence. Et vous verrez que nous allons trouver 13 formes de transgression récusées par Job. Il y a 13 iniquités qu'il n'a jamais commises. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Vous l'avez fait, ce pacte avec vos yeux, pour traverser le monde? Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Quoi? Eh oui. Qu'est-ce que Job avait compris? Que la convoitise, non pas l'adultère, la convoitise des yeux est un péché. Si vous vous souvenez du psaume 139, nous voyons que le Seigneur connaît nos pensées, il connaît toute chose de nous, ce qui est à l'intérieur. Vous voyez ici, Chouraki, dans sa traduction, dit « J'avais tranché un pacte avec mes yeux. » Et quoi? Lorgnerais-je une pucelle? Ça, c'est comme ça que c'est traduit, hein, de l'hébreu. Mais quel est-il le lot d'Eloah en haut, donc de Dieu en haut, la possession de Shaddai aux transcendances? N'est-ce pas le désastre du criminel, l'aliénation des fouteurs du néant? Ne voit-il pas mes routes? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Allais-je avec le vaurien, mon pied se hâtant vers la fraude, etc. Alors, vous voyez, c'est pas un texte qu'on peut lire en public, cela, mais on peut l'étudier, n'est-ce pas? Mais c'est pour bien vous dire, c'est cela qui devait être dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Pourquoi est-ce qu'on fixe notre attention sur une vierge? C'est quand on la convoite, bien souvent. Alors, donc, il récuse la convoitise charnelle. On dirait qu'il connaît le sermon sur la montagne. Quand Jésus dit aux Juifs, vous avez entendu, hein, tu ne commettras pas adultère, mais moi je vous dis que celui qui a porté son regard, qui a convoité une femme, il a commis déjà le péché dans son cœur. Alors, ici, quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Vous voyez, on est observé. Quel héritage tout-puissant m'aurait-il envoyé des cieux? Et nous avons pourtant un héritage dans le ciel. Souvenons-nous de cela. La misère n'est-elle pas pour l'homme unique? Et l'infortune pour ceux qui commettent l'injustice? N'est-ce pas Dieu qui regarde mes voies et compte tous mes pas? Voilà. Vous êtes sous le regard de Dieu. Nous avons vu, les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Il veut se montrer fort à l'égard de celui qui a un cœur parfait envers lui. Alors, regardez le Seigneur, et vous ne convoiterez pas une vierge. Si vous pensez au Seigneur, quand vous avez vu le regard du Seigneur, vous pouvez regarder une vierge sans la convoiter. C'est tout différent, ce regard. Ce n'est pas un regard qui déshabille, c'est un regard qui revêt, même une femme qui était dans l'adultère. Jésus l'a revêtue d'une dignité qu'elle avait perdue. C'est quelque chose de merveilleux. Je pense bien que la femme adultère, quand elle a été sauvée de la mort par Jésus, et qu'elle est restée aux pieds de Jésus, alors que tous l'avaient regardée, se repaissant au fond de cette femme dans leur regard, et prêt à la mettre à mort, à lui jeter les pierres, quand Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre, ils sont tous partis, le plus vieux d'abord, parce qu'il n'en a plus à se reprocher, jusqu'au plus jeune. Hein. Et puis la femme est restée seule. Elle aurait aussi pu partir. Il lui a donné la possibilité de partir. Puis elle reste là. Et alors c'est seulement à ce moment-là que Jésus a levé les yeux sur elle. Et lui dit, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ? Nul, Seigneur. Bien moi non plus, je ne te condamne pas. Et quand elle a vu ce regard, un regard de pureté, un regard qui l'habillait, et non pas qui faisait le contraire, comme c'est souvent le regard de l'homme, bien c'était quelque chose de merveilleux pour elle. Enfin, un regard qui la restaure, qui lui redonne sa dignité. Et bien Job, donc, avait compris le péché des yeux. Maintenant, au verset 5, le mensonge, la fausseté. Si j'ai marché dans la fausseté, ou si j'ai marché dans le mensonge, vécu ou guidé par le mensonge, ai-je pressé le pas pour commettre la fraude ? Ça, c'est le français courant, que vous pouvez consulter aussi si il y a des choses que vous ne comprenez pas. Que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous étiez pesé à la balance du sanctuaire ? Quel poids avez-vous ? Est-ce que vous avez du poids pour Dieu ? Quel est votre poids ? Au sujet du mensonge, au sujet de la ruse, de la fraude, Job pouvait dire, eh bien, si on me pèse à une balance juste, on ne trouvera rien. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, la cupidité, voilà, on désire ce qui ne nous appartient pas. Si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre mange, et que mes rejetons soient déracinés. Puis maintenant, verset 9. Ça, c'est l'adultère. Si mon cœur a été séduit à cause d'une femme, et si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, qu'est-ce qu'il souhaite ? Que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres abusent d'elle. Car c'est une infamie, et il n'y avait pas encore le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Mais pour Job, au temps des patriarches, il dit, c'est une infamie, une faute punie par les juges. Regardez comment Chouraki, l'adjoint au maire de Jérusalem, a traduit ça. Si mon cœur s'est vulvé sur une femme, si je me suis embusqué à l'ouverture de mon semblable, que ma femme fasse la mouture d'un autre et que sur elle d'autres s'agenouillent, ou, oui, infamie que cela, tort criminel que cela, oui, un feu que cela, jusqu'en Avadom, en perdition, il dévore et déracine toute ma récolte. Voilà ce que Job avait vraiment déjà saisi. Et il va fort, hein. Il se punit lui-même. Verset 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur et de ma servante dans leur contestation avec moi. Vous voyez qu'il y avait déjà des contestations au sujet des serviteurs et des servantes. Eh bien, il examinait le droit du serviteur. Il n'a pas transgressé le droit des serviteurs. Il a reconnu ses droits. On parle tout le temps des droits de l'homme. Oui. Job les reconnaissait déjà. Que ferai-je quand Dieu se lèvera, quand il interviendra? Que répondrai-je ? Donc, Job savait qu'un jour, toute chose serait mise dans la lumière et la justice. Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas formés aussi ? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas placés dans le sein matriciel ? Chouraki traduit, « Si j'avais méprisé le droit de mon serviteur et de ma servante, dans leur revendication contre moi, Que ferai-je quand elle, c'est Dieu, se lèvera, quand il sanctionnera, que lui répondrai-je? N'est-ce pas dans un ventre que mon auteur l'a fait aussi, préparé dans une matrice unique, etc. Donc, c'est absolument clair pour nous. Passons au verset 16. Son attitude vis-à-vis des pauvres. Si j'ai refusé aux indigents ce qu'ils désiraient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve a une très grande place dans les pensées de Dieu, et c'est pourquoi quand j'étais encore très jeune, je n'avais pas 20 ans, j'ai été conduit à écrire ce premier petit livre que vous pouvez vous procurer ici, un message de Dieu aux veuves. Parce qu'il est dit que le service religieux pur et sans tâche devant Dieu, c'est de visiter les veuves dans leur affliction et de se conserver pur du monde. Et j'avais compris dans ma maladie que la place que la veuve avait dans le cœur de Dieu. Si j'ai mangé seul mon morceau de pain en égoïste, sans que l'orphelin puisse en manger, car dès ma jeunesse, il a grandi avec moi comme avec un père. Dès le ventre de ma mère, j'ai guidé la veuve. Si j'ai vu le vagabond manquer de vêtements, le pauvre n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Donc, vous voyez, là, il montre qu'il n'a pas commis d'injustice. Il a eu soin des pauvres et plus loin, donc il n'a pas commis d'injustice. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me voyais soutenu par les juges, ça se faisait déjà ce temps-là, que mon bras se détache de mon épaule et mon avant-bras du coude et qu'il se brise, car le malheur envoyé par Dieu, j'en ai peur. Et je ne puis rien devant sa majesté. Ben, il vient de passer par 6 malheurs, ou 7 si l'on veut, eh bien oui, il en a peur. Maintenant, une 8e iniquité qu'il n'a pas commise. Si j'ai mis dans l'or mon assurance, et si j'ai dit au métal précieux, en toi je me confie, si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens, des richesses que ma main avait acquises, puis, une autre transgression, c'est l'idolâtrie. Si j'ai regardé la lumière du soleil quand elle brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse. Donc, c'est pas seulement regarder, mais c'était l'adoration des astres qui était une des premières erreurs de l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Il a commencé par adorer le soleil ou la lune, les étoiles. Eh bien, adorer, c'est porter la main à sa bouche. Adorer, c'est envoyer un baiser, en quelque sorte, littéralement. C'est ça. Eh bien, il n'avait jamais fait cela. C'est ce qui nous montre que Job devait vivre dans un temps très reculé. Eh bien, il avait été gardé de tout cela. Si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée à ma bouche pour un baiser, voilà le texte, c'est encore une faute passible de jugement. J'aurais renié le Dieu d'en haut. Adorer, n'est-ce pas, les astres, eh bien, c'est renier le Dieu d'en haut. Et aujourd'hui, quand on pense à l'astrologie, à tous ces gens qui consultent les horoscopes, quel paganisme! Bien, Job n'était pas païen. Et la haine des ennemis, verset 29. Si je me suis réjoui du malheur de celui qui me haïssait. On dirait qu'il a lu le sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis. Alors, étudiez maintenant ce chapitre. Je ne vais pas le faire moi-même, mais vous allez l'étudier avec les 10 commandements. Vous allez l'étudier avec le sermon sur la montagne. Et vous verrez que Job avait vraiment compris la pensée de Dieu, le désir de Dieu, un peu comme Joseph. Mais Joseph, c'était un jeune homme qui aurait pu dire, bien, Dieu m'a abandonné. J'ai voulu obéir à mon père, j'ai été fidèle dans ma mission. Voilà ce que mes frères ont fait, ils m'ont vendu, ils ont voulu me tuer, ils m'ont vendu. Et puis maintenant, Dieu est avec moi, c'est sûr. Mais voilà, je suis chez Potiphar, et puis la femme de Potiphar a levé les yeux sur Joseph. Voilà. Elle a vu qu'il était beau, beau de visage, une belle stature. Et puis elle l'a convoité, c'est elle qui l'a convoité. Alors Joseph aurait pu se dire, ben moi je suis un homme comme un autre, c'est pas moi qui l'ai cherché. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Quand tous les jours, elle lui dit, couche avec moi. Parce que donc vous dites tout le temps cela, ça risque bien de vous arriver. Parce que vous n'êtes pas de bois, vous n'êtes pas d'airain, vous n'êtes pas de marbre. Et Joseph ne l'était pas. Et il le savait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sachant bien qu'il pourrait tomber, eh bien, quand le temps favorable était venu où la femme était seule dans la maison et qu'elle avait bien tout combiné pour le faire tomber, et qu'elle l'a saisi par son manteau, il a laissé tomber son manteau, puis il est parti. Et alors, dans sa rage, hein, parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle l'a accusé d'avoir fait ce qu'il n'avait pas fait. Mais Joseph est un sage. Il a fui la tentation. Il l'a fui. Il n'a pas joué avec cela. Et alors, il a dit cette parole que moi je trouve sublime. Comment pécherais-je? Et ferais-je un si grand mal contre qui? Contre Dieu. Il n'a pas dit contre Potiphar, contre ton mari. Mais il a compris que c'est un péché contre Dieu de prendre la femme de son prochain. C'est un péché contre... Eh bien, Joseph, qui avait 30 ans, eh bien, ou 28 ans à ce moment-là, il avait compris cela. Et il se gardait pur pour son Dieu. Donc, il avait une relation avec Dieu. Et Job, ici, au verset 28, « J'aurais renié le Dieu d'en haut. » Verset 29. Si je me suis réjoui du malheur de celui qui me haïssait, si j'ai sauté d'allégresse parce que le mal l'avait atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, hein, il savait, et lui, ça veut dire que puisqu'il n'a pas permis à sa langue de pécher, qu'est-ce qu'il savait faire, Job? Tenir son corps en bride. C'est l'épître de Jacques. Celui qui ne pêche pas de sa langue, il peut tenir son corps en bride. Je n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander la mort avec imprécation, la mort du coupable. Si les gens qui sont dans ma tente ne disaient pas « Où est celui ?» qui n'a pas été rassasié de sa viande. C'était un homme qui exerçait l'hospitalité, c'est ce qui nous est recommandé à nous aussi. N'oubliez pas l'hospitalité. Job savait cela, que l'hospitalité, c'était un principe divin. L'étranger ne passait pas la nuit dehors. J'ouvrais ma porte aux voyageurs. Si, comme tout être humain, j'ai caché mes crimes. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'hypocrisie. Eh bien non, cette abomination, l'hypocrisie, il ne l'a pas commis. Si, comme tout être humain, j'ai caché mes crimes pour enfouir mes fautes dans mon sein, parce que j'étais effrayé de la rumeur de la foule. Voilà ce qu'on a. On a peur, n'est-ce pas, de confesser son péché. Alors, on est malheureux. C'est le psaume 32 que vous pouvez lire ici. « Tant que je me suis tue, mes os dépérissaient. Jusqu'à ce que j'ai dit, je te ferai connaître mon péché, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Eh bien, il ne s'est pas tenu silencieux. Si je me suis tenu silencieux, sans franchir ma porte, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà mon dernier signe. Que le Tout-Puissant me réponde, la plainte écrite par mon adversaire? Ne la porterai-je pas sur mon épaule? Voyez, si quelqu'un a une plainte contre moi, et qui est un adversaire, je peux porter sa plainte sur mon épaule, parce qu'elle est fausse. Comprenez-vous? Il n'a pas peur du jugement. Même si on l'accuse, il peut porter l'accusation sur son épaule. Hein? Parce qu'il est sûr qu'il sera, acquitté quand même, on se rendra compte de sa droiture. Ne la nourrai-je pas sur moi comme une couronne? Hein? Même l'accusation des autres, c'est comme une couronne pour moi. Je lui rendrai compte du nombre de mes pas, je m'approcherai de lui, donc alors c'est du Tout-Puissant, vous voyez son assurance pour paraître devant Dieu, je m'approcherai de lui comme un prince. Vous rendez-vous compte? Job peut dire à Dieu, si je dois me présenter devant toi, je serai là comme un prince. Si mon terrain, alors voilà, ici les malhonnêtetés en affaires, si mon terrain crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai désespéré l'âme de ses propriétaires, qu'il en sorte des ajoncs, c'est-à-dire des buissons d'épines, au lieu du froment et de livrer au lieu d'orge. Enfin, les paroles de Job. Eh bien, il y a des traductions qui pourraient être meilleures à celle de Second. Je vais vous lire juste un texte ici de Darby. C'est simplement pour vous montrer, je ne vais pas commenter davantage, mais pour vous montrer comment vous pouvez entrer dans la compréhension de ces textes. J'aime beaucoup le verset 35 chez Darby, comme il l'a rendu. Si j'avais quelqu'un pour m'écouter, et qu'est-ce qu'il dit? Voilà ma signature. Je vous donne ma signature. Voilà ma signature. Vous pouvez me croire. Je signe. Que le Tout-Puissant me réponde et que ma partie adverse fasse un écrit. Dans le français courant, oh combien j'aimerais être enfin écouté. Je veux signer ce que j'ai dit. Il est question là de la signature. Je veux signer ce que j'ai dit. Je peux signer ce que j'ai dit. Au fond, tout ce qu'il vient de dire dans le chapitre 29, dans le chapitre 30 et dans le chapitre 31, il peut signer. C'est la vie.